Et donc, nous revenons à l'exemple d'Intel. Nous allons d'ailleurs revenir un tout petit peu en arrière dans le temps, mais c'était aussi parce que pour éviter de faire un très long passage uniquement sur Intel, comme c'est un peu technique des fois, je me suis dit que ça risquait de vous lasser un peu. Mais on va dire que ce qui se passe là va remonter plus loin dans le temps que les monospaces. On va se projeter sur une partie du temps en parallèle, mais pas franchement après. Globalement, c'est plutôt chronologique, hein, le cours, mais là, il y a une petite entorse. Alors, comme assez souvent quand on démarre une parenthèse, il y a une petite parenthèse théorique. Nous avons déjà parlé de dominant design en disant simplement que c'était une forme d'architecture dominante qui faisait que quand on concevait un produit, on ne partait pas d'une feuille blanche, on savait que il y avait qu'un produit avait un certain nombre de caractéristiques bien déterminées qu'on allait retrouver systématiquement dans tous les produits. En fait, ce terme est issu de travaux d'Otterbach et Abernathy, qui avaient d'abord analysé la manière dont dont avait évolué dans le temps le secteur automobile, et puis qui ensuite se sont demandé si les phases qu'ils avaient vues identifiées sur le marché automobile se retrouvaient dans d'autres cas. Et ils se sont aperçus que dans beaucoup, beaucoup d'industries, on passait par les mêmes phases que celles par lesquelles était passé le secteur automobile. Donc concrètement, quand une industrie arrive, c'est-à-dire qu'un tout nouveau produit est mis sur le marché, en règle générale, on commence par une phase qu'ils appellent une phase fluide. Durant cette phase, on a des barrières à l'entrée qui sont peu élevées et qui font qu'il y a beaucoup de nouveaux entrants, souvent de taille modeste, hein. Il y a beaucoup d'innovations radicales de produits. Comme le produit n'est pas du tout stabilisé, du coup, il y a des gros changements. Vous voyez, dans le domaine automobile, il y a des voitures à vapeur, des voitures électriques, des voitures à essence, il y a des voitures à trois roues, à quatre roues, à six roues. Il y a des moteurs sous le conducteur ou à l'arrière, plus rarement à l'avant. On voit que il y a plein de choses qui aujourd'hui nous paraissent évidentes, que une voiture, c'est plutôt. Alors évidemment, la voiture électrique revient en force, mais sinon, c'était plutôt une voiture à moteur thermique avec le moteur à l'avant, quatre roues, dont les deux roues avant directrices et également à traction avant, etc. Ça, on n'a pas au début. Au début, on ne sait pas ce qui va en 1905. On ne sait pas quel type de voiture va s'imposer entre la voiture à essence et la voiture électrique. On se pose vraiment les questions. La voiture à vapeur commence déjà à paraître un peu dépassée. Et donc, la concurrence, elle se joue surtout sur les avancées qu'on peut faire sur le produit lui-même. Parce que du coup, on a des produits qui sont assez nettement différents les uns des autres, donc ça peut vraiment faire la différence. Et du coup, il faut savoir s'adapter rapidement. C'est-à-dire que si tel concurrent sort un produit avec quelque chose de très innovant et qu'il est possible de l'imiter, il faut être capable de l'imiter assez vite. Donc, ce qui est vraiment très important dans cette phase, c'est la flexibilité. Flexibilité au niveau de la conception, du coup, hein, puisque le produit n'est pas fixe, mais aussi flexibilité au niveau des procédés de production, ce qui quelque part va un peu boucler la boucle, puisque du coup, on a des procédés de fabrication qui sont peu automatisés. Et comme ils sont peu automatisés, bah, ils ne nécessitent pas des équipements très chers, ce qui contribue au fait que les barrières à l'entrée sont assez faibles. Donc, vous voyez, on a bien un système cohérent. Mais peu à peu, il y a une certaine architecture du produit qui va s'imposer, hein, qui va s'avérer plus efficace que les autres. Et donc, qui va être adoptée par tout le monde. C'est ça qu'on va appeler le dominant design, hein, c'est la conception dominante dans une industrie. Et du coup, bah, c'est ce dominant design qui va faire basculer vers ce qu'ils appellent une phase de transition. Dans cette phase de transition, on va avoir moins d'innovations radicales de produits. C'est assez logique puisque certaines des caractéristiques du produit qui avant bougeaient, maintenant sont fixes. Donc évidemment, ça limite un petit peu les possibilités d'innovation majeure, hein. Je parle pas des innovations incrémentales. Alors ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'il n'y en a plus, ça veut dire qu'il y en a moins. Elles sont de plus en plus espacées. Et puis, bah de ce fait, comme les produits malgré tout se ressemblent de plus en plus, eh bien forcément, être compétitif en matière de prix devient beaucoup plus important. Et donc, bah, la concurrence va davantage se focaliser sur les procédés de fabrication. Donc c'est le moment où on va chercher à automatiser les procédés de fabrication pour bah, obtenir des coûts beaucoup plus faibles, ce qui va aboutir aussi à une rigidification des procédés de fabrication eux-mêmes, si bien qu'on a à la fin aussi assez peu d'innovations radicales de procédés. Et c'est ce qu'ils appellent la phase spécifique. Donc encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus du tout, ça veut dire qu'il y en a beaucoup moins. Alors, ils avaient fait un joli schéma pour résumer leur théorie. Hein, donc on voit que les courbes représentent le taux d'innovation majeure. Hein, encore une fois, alors d'une part, il faut retenir que ça tombe jamais à zéro, et d'autre part, qu'il s'agit bien des innovations majeures ou radicales. Hein, ça ne veut pas dire qu'il y a moins d'innovations tout court. Mais on voit qu'au début, on a surtout de l'innovation majeure de produits. Que bah, à un moment donné, enfin à un moment donné, c'est progressif, mais ça va diminuer, et puis il y a ce moment où ça va devenir vraiment un peu plus compliqué de faire de l'innovation radicale de produits parce qu'on a ce fameux dominant design. Ça correspond grosso modo, hein, c'est pas mais à l'endroit où les deux courbes se croisent. Et puis du coup, bah, on a de plus en plus d'importance donnée à l'innovation majeure de procédés. Là, on va vraiment concentrer ses efforts sur les procédés de fabrication. Et puis, bah, on l'a dit tout à l'heure, hein, les procédés eux-mêmes vont nécessiter des machines de plus en plus coûteuses qui vont rendre plus difficiles les innovations majeures de procédés. Si bien que globalement, on va avoir une domination de l'innovation incrémentale. Alors, bon, c'est un modèle qu'il faut avoir en tête parce que il peut permettre de détecter des moments où, enfin, ça peut être extrêmement intéressant de comprendre ce qui se passe. On va le voir avec Intel. Je ne veux pas rester trop abstrait sur ce sujet-là. Ça va être, je pense, bah, vous parler davantage avec l'exemple derrière. Mais il y a un moment où, quand on voit le dominant design se structurer, Il faut être capable de se dire, oula, il faut peut-être qu'on lève un tout petit peu le pied sur la recherche d'innovation majeure de produits. Et en tout cas, il est important qu'on améliore considérablement nos procédés de fabrication et qu'on suive le rythme des meilleurs sur l'amélioration des procédés de fabrication, parce que c'est surtout ça qui va faire la différence à partir de maintenant. Et si on s'en rend compte un peu trop tard, eh ben on risque d'avoir déjà pris du retard par rapport aux concurrents en termes de procédés de fabrication. En même temps, il faut voir que c'est une théorie qui a été posée dans les années 70. Hein, elle a été fait l'objet d'une première publication en 1975 qui a pas été très remarquée. Et puis d'une autre publication en 78. Et là, par contre, elle a été assez largement reprise par la suite. Aujourd'hui, on a quand même des systèmes de production qui peuvent être à la fois assez automatisés et flexibles, hein, notamment avec les robots de production, les machines à commande numérique, les systèmes d'ordinateurs branchés à des imprimantes 3D si on est sur des petites séries. Donc on a quand même des systèmes qui permettent de faire de l'automatisation flexible. Et donc c'est un peu moins automatique qu'à leur époque où quand on voulait quand on passait à un niveau d'automatisation fort, ça se faisait toujours avec une forte spécialisation des machines. Alors ça reste globalement assez vrai, hein. Si leur théorie n'était plus du tout valable, bah, je ne vous en parlerai pas. Mais il faut la nuancer un peu. Les mécanismes qu'ils décrivent derrière sont un peu moins forts aujourd'hui qu'ils ne l'étaient à l'époque. Ce que je viens de vous dire, ça explique en partie les difficultés d'Intel dans ce qu'ils ont inventé, hein, c'est-à-dire la mémoire vive moderne. Je vous l'avais déjà indiqué dans la partie précédente, hein, finalement, tout le monde va abandonner la voie Schottky bipolaire. Vous voyez, hein, qui sont des produits assez différents dans leur conception même des produits MOS, même si c'est un procédé de fabrication MOS, mais néanmoins, c'est directement lié au produit. Puis, il y a le système de multiplexage qui permet de rendre la mémoire compatible avec plein de systèmes différents, qui est apporté par MOSTEC. Et finalement, bah, tout le monde va se mettre à faire des mémoires MOS avec multiplexage. Donc, c'est les éléments essentiels du Dominant Design qui s'imposent. Et à partir de là, du coup, la concurrence va basculer de plus en plus vers les procédés de fabrication. Mais Intel, alors c'est toujours facile, hein, de le voir après coup, et puis ça peut avoir un côté un peu caricatural, parce que évidemment qu'Intel cherche en parallèle à améliorer ses procédés de fabrication. Il n'empêche qu'il ne lève pas du tout le pied sur l'innovation radicale de produits. En 1960, je crois que c'est 16, ah non, 79, il y avait les participants qui étaient sur la date. Ils introduisent de nouvelles mémoires dites à source d'énergie unique, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir plusieurs connecteurs pour l'électricité, n'en avait qu'une. Bon, ça a sûrement pas mal d'avantages, peut-être en termes de consommation, je me souviens plus, hein, ce que ça, pour être tout à fait franc, hein, ce que ça a comme avantage. Mais visiblement, c'était pas un avantage énorme qui faisait que on allait acheter de la mémoire Intel parce qu'elle était à source d'énergie unique. Ensuite, en 82, ils lancent des mémoires dites avec redondance. Alors là, le principe est assez intéressant. C'est-à-dire que dans une mémoire, si vous avez une partie des composants qui sont défectueux, eh bien, ça suffit pour que la mémoire soit inopérante et donc on jetait tout simplement, et c'était une partie non négligeable, peut-être 10-15% de la production qui était jetée, parce que non conforme en bout de ligne. Et donc, bah les mémoires étaient faites avec 8 colonnes pouvant contenir des informations. Et ce qu'a fait Intel, c'est que se rendant compte que dans la très grande majorité des cas, les défaillances qu'il y avait sur une mémoire ne portaient que sur une des colonnes, et que néanmoins, ça obligeait à jeter toute la mémoire, eh bien, ils ont rajouté une 9e colonne qui n'était pas active par défaut. Et quand on testait, donc on testait de façon automatique, hein, mais les différentes colonnes, donc si les 8 colonnes normales fonctionnaient, bah, très bien, la mémoire était considérée comme conforme. S'il y avait une des colonnes qui était défectueuse, hop, on envoyait la mémoire vers une sorte d'atelier ou de ligne un peu spéciale, et là, on y activait la 9e colonne, si bien qu'après, on pouvait récupérer la mémoire, la commercialiser au lieu de l'acheter. Astucieux, non? Et puis en 1984, ils vont lancer une version améliorée de la technologie MOS. Donc on voit qu'on est toujours sur de l'amélioration du produit, du produit, du produit. Pendant ce temps-là, il y a des concurrents japonais qui vont récupérer les technologies puisque personne ne cherche à les protéger de l'imitation. Elles sont brevetées, mais on ne fait pas respecter les brevets, on y reviendra. Et donc, bah, ces concurrents japonais, eux, ne vont pas chercher à changer les sources d'énergie, à créer des colonnes supplémentaires, à changer la structure de la mémoire. Ils vont simplement reproduire des mémoires MOS avec multiplexage. Et comme on va utiliser des machines qui vont graver sur le silicium les circuits de manière de plus en plus fine, c'est toute une des grandes clés de l'amélioration des performances des semi-conducteurs, hein. Eh bien, ils vont régulièrement sortir des nouvelles générations de mémoire pouvant comporter plus d'informations. Comme ils se concentrent beaucoup sur l'amélioration des procédés de fabrication, eh bien, ils vont diminuer le taux de produits défectueux, mais très fortement, hein. À un point d'ailleurs qu'à un moment donné, les fabricants américains vont accuser les fabricants japonais de faire du dumping, parce qu'ils vont considérer que c'est pas possible de vendre de la mémoire, enfin d'avoir des coûts aussi faibles. Et en fait, bah, du coup, il va y avoir des remontées d'informations, etc. Et ils vont se rendre compte que leurs concurrents atteignent des taux de produits défectueux qui sont sans aucun rapport avec les leurs. Alors j'avais eu à un moment donné les chiffres, mais si vous voulez, en termes d'ordre de grandeur, je pense que si Intel était autour de 15%, 10 à 15% de produits défectueux, les Japonais étaient peut-être autour de 2 à 3%. Vous voyez, ce genre d'ordre de grandeur-là. Et du coup, bah, ça ne vaut pas le coup. Parce que malgré tout, la 9e colonne, hein, la mémoire avec redondance, malgré tout, bah, il faut la rediriger, il faut qu'il y ait un système qui réactive la colonne qui n'était pas active, qui vérifie qu'au bout du compte, il y a bien les 8 colonnes, qui fonctionnent, parce que, la 9e peut être défectueuse. Donc évidemment, c'est pas du tout la même chose que de fabriquer directement la mémoire. C'est moins du gâchis et ça coûte moins cher que de jeter purement et simplement la mémoire, mais ça coûte quand même beaucoup plus cher que de la produire directement en bon état. Et donc, ce que font les Japonais, c'est qu'ils la produisent directement en bon état et qu'avec un très faible taux de rebut, bah, ça vaut pas le coup de mettre en place une ligne spéciale pour réactiver la partie redondante de la mémoire. Ils vont bien sûr du coup baisser les prix, hein. Ça permet d'être très très compétitif en matière de prix, d'autant qu'eux ne vont pas chercher à faire beaucoup de recherche et développement sur les produits. C'est-à-dire que non seulement leurs procédés sont plus efficaces, mais ils ne dépensent pas les sommes que peut dépenser Intel en recherche et développement. Et puis, c'est ce que j'avais commencé à dire, je l'ai dit dans l'autre sens, mais c'est que parallèlement, en concentrant tous leurs efforts sur les procédés, ils vont aussi toujours être à la pointe en termes de finesse de gravure. Ils vont acheter les machines les plus récentes, si bien que finalement, si vous regardez bien, quand Intel lance ses mémoires à source d'énergie unique, sont des mémoires à 16 kilobits. Mais les Japonais, eux, ont lancé des mémoires classiques de 16 kilobits 3 ans avant. Et quand Intel lance cette fameuse mémoire à source d'énergie unique de 16 kilobits, les Japonais commencent à commercialiser des mémoires de 64 kilobits. Et puis, quand en 1982, Intel lance ses mémoires avec redondance qui sont des mémoires de 64 bits, kilobits, pardon, eh bien, les Japonais commencent à lancer des mémoires de 256 kilobits. Donc, vous voyez que du coup, Intel est presque en retard d'une génération sur les produits standards des Japonais, hein, qui n'ont pas les caractéristiques innovantes des produits d'Intel, mais qui sont tout simplement, qui comportent tout simplement plus d'informations, ce qui est quand même ce que recherche avant tout un fabricant d'ordinateurs ou de calculatrices ou tout ce qui peut utiliser de la mémoire vive. Le résultat, c'est que l'évolution de la part de marché d'Intel sur les mémoires vives n'est pas très attrayante, on va dire. Je laisse se dérouler le graphique. Et non, ça remonte pas. Au début, c'est les seuls à proposer, à maîtriser la mémoire vive. Ils sont en situation de monopole. En 74, il y a des concurrents qui sont déjà là, mais on voit que Intel est encore le grand maître de la mémoire vive. En 1976, ils n'ont plus que 20% du marché. Donc déjà, ça, c'est la première chute. Et puis après, ils vont descendre sous les 5% du marché. Donc là, ils ne sont plus du tout leaders, hein, ils sont loin des grandes entreprises japonaises, qui d'ailleurs monopolisent, je crois, plus de 90% des ventes de mémoire à 256 kilobits. À chaque fois, à chaque génération, en fait, les Japonais vont gagner du terrain, mais de façon extrêmement spectaculaire. Mais c'est logique puisqu'il les lance avant. Voilà, du coup, ils sont vraiment en mauvaise posture. Et du coup, heureusement, hein, comme le marché de la mémoire vive explose pendant ce temps-là, en fait, il n'y a pas du tout cet effet-là sur le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, il continue à monter, je crois, jusqu'en 78. Après, il stagne, voire il baisse. Un petit peu sur les mémoires vives, mais c'est pas un effondrement. Ce qui peut aussi, expliquer que les dirigeants d'Intel ne vont pas se rendre compte à quel point ils sont dans une situation difficile sur ce marché. Enfin, ils connaissent les parts de marché, mais ça reste une activité rentable et pendant un certain temps, ça reste même une activité en croissance. Donc, c'est pas. Il y a assez souvent, on s'aperçoit dans des retards de réaction d'entreprise, des effets de ce type-là. C'est-à-dire que finalement, on se dit c'est normal que des nouveaux concurrents arrivent. Bon, les Japonais, quand même, ils sont limite, ils ont l'air de faire du dumping, mais sinon, c'est normal. Et puis, c'est normal de ne plus avoir que 5% de part de marché maintenant qu'il y a 15 ou 20 concurrents. Alors qu'effectivement, avant, on avait. Quand on n'était que deux, on avait 80% du marché. Donc, finalement, on peut se dire que ce n'est pas parce qu'on est devenu mauvais. Alors les microprocesseurs, Eh bien, finalement, ça va, à un moment donné, ça ne va pas aller beaucoup mieux. Donc, alors on ne peut pas dire qu'Intel ait frôlé la faillite, parce que bah, c'est tout le paradoxe de cette situation, c'est que malgré tout, comme on est sur des marchés en croissance, bah, ils arrivent quand même à avoir une croissance de leur chiffre d'affaires, hein, globalement. Et c'est une entreprise qui reste rentable, pas super rentable, mais qui reste rentable. Donc ils ne sont pas du tout dans une situation avec le couteau sous la gorge, mais en même temps, du point de vue des parts de marché, c'est à peu près pareil. Donc ils avaient lancé en 74 le 80-80, qui aura une certaine importance finalement dans l'histoire de la micro-informatique, puisque c'est ça qui équipait le premier micro-ordinateur qui s'est vraiment vendu, l'Altair 2000. Et donc, mais simplement, bah là encore, c'est comme pour les mémoires, Intel ne va pas chercher à protéger toutes ses avancées techniques, enfin, elle va déposer des brevets, mais ne va pas systématiquement les faire respecter. Et du coup, bah, il y a plein d'autres entreprises qui vont non seulement fabriquer des microprocesseurs, assez, enfin, pas très, avec plusieurs fabricants des microprocesseurs plus performants que ceux d'Intel, et parfois des microprocesseurs 100% compatibles. Alors le pire, c'est quand c'était plus performant et 100% compatible. Du coup, évidemment, ils perdent des parts de marché, hein. Vous voyez au passage que c'est le même principe que pour les mémoires, hein. On va graver de plus en plus finement les composants électroniques sur le silicium. Donc là, on est passé à 3 microns. Et puis ils vont continuer à lancer des microprocesseurs qui vont être de plus en plus puissants. Hein, donc, et notamment en 78, oui, on fait un vrai saut, puisque on passe de 6500 à 30 000 transistors. Donc à l'époque, je crois que c'était pour le coup le record. Par ailleurs, au lieu de parler avec des mots de 8 bits, c'est le double d'informations qui circulera entre le microprocesseur et l'extérieur, et aussi en interne. Donc ça augmente évidemment la vitesse de traitement. Ça ne la double pas tout à fait parce qu'on n'a pas toujours pile le nombre, mais enfin ça double presque la vitesse. Le nombre de transistors, c'est pas proportionnel non plus. C'est parce que vous avez 5 fois plus de transistors que ça va 5 fois plus vite. Mais évidemment, ça accélère aussi parce que vous avez plus de circuits en parallèle. Puis l'autre élément qui fait qu'un microprocesseur augmente en vitesse, c'est sa fréquence d'horloge, le nombre de cycles qu'il fait par seconde. Donc là, on voit qu'on reste au même niveau que le 80-85, mais qui n'a pas, enfin, à ma connaissance, qui n'a vraiment pas eu un gros succès, qui notamment n'a pas été repris dans des ordinateurs. Mais on voit qu'on est monté assez sérieusement par rapport au 80-80, qui était à 2 MHz, c'est-à-dire à 2 millions de cycles par seconde. Donc là, on est passé à 5 millions. Et puis peu à peu, on montera. Et puis en 1979, ils font un truc un peu original. On verra que ça a son importance, une grosse, grosse importance, c'est qu'ils vont sortir une version bridée du 80-86. Donc concrètement, c'est un 80-86, mais qui, en termes de connexion à l'extérieur, est resté sur du 8 bits. En interne, il fonctionne en 16 bits, mais en externe, il fonctionne en 8 bits. Et il est. Je crois que c'est 3 fois moins cher que le 80-86. Donc c'est une façon d'occuper un segment un peu moins haut de gamme du marché. Et c'est là qu'arrive un choix qui aura une importance considérable. En 1980, IBM, voyant les ventes de micro-ordinateurs se comptait en centaines de milliers, se dit, il faut peut-être quand même pas, et puis avec un taux de croissance élevé, se dit, il faut peut-être quand même qu'on ne passe pas à côté de ce segment-là. Donc, il décide de se lancer dans la micro-informatique, donc de lancer un ordinateur, un micro-ordinateur. Ils savent que s'ils s'y prennent de la façon dont ils s'y prennent habituellement, ils vont mettre trop de temps et arriver trop tard. Parce qu'habituellement, IBM conçoit, enfin, ils conçoivent eux-mêmes tous les composants clés d'un ordinateur. Donc il aurait fallu qu'ils écrivent un système d'exploitation, probablement qu'ils écrivent les premiers logiciels pour avoir quand même une première bibliothèque de logiciels disponibles, qu'ils conçoivent le microprocesseur, qu'ils conçoivent les principaux bus de données, tous les circuits clés qu'il y a dans un ordinateur, et ça leur aurait sûrement pris plusieurs années. Et là, ils voient bien que le marché est en train de décoller, que l'Apple II, souvenez-vous de ce qu'on a dit sur Apple, bah, commence à être vraiment très au-dessus des ventes des autres et donc, peut-être que IBM va rater le virage et que c'est Apple qui sera la grande entreprise de la micro-informatique. Donc ils disent, bah, on va faire totalement autrement. On va prendre un groupe d'une douzaine d'ingénieurs, on va les mettre au vert, entre guillemets, on va les sortir de la structure de l'entreprise, et ils vont avoir pas tout à fait carte blanche, parce qu'ils vont toutes les semaines rencontrer les managers d'IBM pour leur faire part de leurs avancées et leur soumettre les décisions. Mais néanmoins, voilà, tout le reste de la semaine, ils sont entre eux. Et ils mènent leur projet comme si c'était une start-up, en fait, hein. C'est comme si IBM avait laissé en son sein se développer une start-up autonome. Et le deal, c'est qu'ils doivent, ils ont un an pour concevoir l'ordinateur. Évidemment, quand vous êtes une douzaine et que vous avez un an, bah vous pouvez pas, encore une fois, à 12 et en un an, concevoir un nouveau microprocesseur, concevoir un nouveau système d'exploitation, concevoir tous les circuits internes, etc. Donc en fait, ils vont, contrairement aux habitudes d'IBM, avoir recours à des fournisseurs extérieurs, y compris pour des composants. Qui sont des composants clés de l'ordinateur. Et notamment, les deux plus connus, c'est le système d'exploitation, où là, bah, ils vont d'abord s'adresser à l'entreprise qui à l'époque était leader, qui était Digital Research, mais ça va un peu, ils vont perdre un peu de temps parce que, bah, parce qu'il y a des réticences à signer tous les papiers qu'IBM veut leur faire signer, etc. Bref, ils perdent beaucoup de temps au départ dans les négociations avec Digital Research. Et du coup, bah, il y a cette jeune entreprise flexible qui est Microsoft qui propose, vous vous en souvenez peut-être, hein, essentiellement le langage basique comme produit. Bah, il se trouve qu'ils vont racheter un début de système d'exploitation 16 bits qui avait été conçu par quelqu'un et ils vont enfin par une petite société d'ailleurs c'est assez ils vont le racheter pas cher, ils vont omettre de dire que c'est pour proposer un système à IBM, hein. Et du coup, évidemment, ceux qui vont avoir vendu pour quelques milliers de dollars le MS-DOS à Microsoft vont l'avoir un petit peu mauvaise quand ils vont apprendre que c'est ce qui va équiper le micro-ordinateur d'IBM. Bon, ça, c'est pour l'anecdote. Et donc, ils s'adressent à Microsoft. Et puis pour le microprocesseur, alors là, il y a un choix cornélien à faire, parce qu'il y a deux microprocesseurs qui sont envisageables. Après, il y en a quelques autres, mais IBM se dit que l'avenir, c'est quand même le microprocesseur 16 bits, que pour l'instant, la grande majorité des ordinateurs, en tout cas ceux qui se vendent beaucoup, sont des ordinateurs 8 bits et que donc le grand IBM qui arrive sur un marché ne peut pas arriver en ayant vraiment absolument rien d'innovant dans son ordinateur. Donc, il décide dès le début que ce sera un ordinateur 16 bits. Le choix en termes de microprocesseur, ça va donc être l'Intel 8086 ou le Motorola 68000, le plus performant des deux étant assez nettement le Motorola 68000. Du coup, Intel va non seulement choisir, IBM va non seulement choisir Intel, mais va même choisir la version bridée du 8086. C'est-à-dire non seulement le 68000 était plus performant que le 8086, mais le 8086 était plus performant que le 8088, et donc IBM choisit ce qu'il y a de moins performant. Alors, drôle de décision. Peut-être pas si drôle que ça. Ça peut être. Alors certains ont émis le fait que finalement un Motorola 68000 en termes de puissance c'était pas si éloigné, c'était en dessous, hein, mais c'était pas si éloigné de ce qui était utilisé comme processeur dans les mini-ordinateurs. De plus, on commençait à voir réapparaître à l'époque une catégorie de presque micro-ordinateurs qu'on appelle des stations de travail. C'est des sortes de micro-ordinateurs survitaminés, comme tout ce qui se fait de mieux, notamment en traitement graphisme. Et là, notamment, en 82, va sortir une station de travail équipée d'un Motorola 68000. Donc, on voit qu'on n'est pas si loin. Et donc peut-être qu'il y a une crainte chez IBM de cannibaliser un peu le bas de sa gamme de mini-ordinateurs. Par ailleurs, l'Intel, a priori les microprocesseurs Intel étaient un peu moins chers que le Motorola, et le 8088, là c'est clair, était beaucoup moins cher. Donc le prix a forcément joué aussi. Et puis, peut-être surtout quand même. Ça évite d'avoir à parce que à l'époque, comme on est au début du passage de l'ordinateur 8 bits à l'ordinateur 16 bits, tous les circuits sont pas disponibles en 16 bits. Et donc plutôt que d'avoir à concevoir ou à chercher des fournisseurs spécifiques sur des choses nouvelles, ce qui risquerait de retarder le lancement du produit. Eh bien, l'avantage de l'Intel 8088, c'est qu'il se branche sur les circuits 8 bits qui existent déjà, du coup. Donc, il prenait plus de risques en termes de délai. Voilà, l'IBM PC, hein, petite photo. Alors, il y a une condition, hein, pour pouvoir rentrer et devenir fournisseur d'un composant. Essentiel chez IBM, c'est qu'il faut nécessairement proposer au moins la possibilité d'une deuxième source. Donc, ça veut dire que Intel doit accorder des licences, et puis IBM va pas se contenter du fait que Intel ne poursuit pas les entreprises qui imitent ses microprocesseurs. Hein. IBM veut vraiment que les choses soient carrées et qu'il y ait des licences en bonne et due forme, et qu'il n'y ait pas de surprise, et qu'à tout moment, ils puissent se tourner vers un autre fournisseur qu'Intel. Et donc, Intel accorde des licences, d'abord à AMD, comme quoi vous voyez que parfois des décisions prises il y a plus de 40 ans ont encore leur importance aujourd'hui, hein, puisque vous savez peut-être. Que sur le marché des PC, les deux leaders sont aujourd'hui Intel et AMD. Simplement, et sans doute aussi pour ne pas faire justement d'AMD un rival de taille à peu près équivalente, ils vont en fait accorder des licences à une douzaine de fabricants de microprocesseurs, enfin de semi-conducteurs. Mais néanmoins, l'entreprise de référence, celle qui a été le contact d'origine d'IBM, celle qui a conçu le microprocesseur qui a été intégré dans l'IBM PC, c'est Intel. Donc ça va changer le statut d'Intel hein, sur le marché des microprocesseurs. Et puis bah, l'IBM PC, c'est un gros succès. C'est un succès rapide et un très gros succès dans les 2 ou 3 ans qui suivent. Du coup, le chiffre d'affaires dans les microprocesseurs, comme Intel est quand même le premier fournisseur des microprocesseurs pour IBM, bah, le chiffre d'affaires va augmenter très vite. Par ailleurs, l'IBM PC, lui, va être imité aussi très vite, parce qu'il est peu protégé. Et donc il y a par ailleurs d'autres fabricants d'ordinateurs qui vont proposer des ordinateurs 100% compatibles avec l'IBM PC et qui vont aussi acheter leurs microprocesseurs chez Intel. Est-ce que je fais le point d'inflexion stratégique? On a déjà dépassé un peu. On se voit demain. Donc, je vais m'arrêter là. Je voulais vérifier, être sûr qu'on voyait bien demain. Parce que du coup, ce sera encore tout frais. Et donc, on pourra faire la suite sans que ça soit une grosse coupure. Donc, je ne vais pas trop dépasser ce soir. Je vais vous souhaiter une bonne soirée et on se retrouve demain. J'essaierai dans l'intervalle de remettre, alors j'arriverai pas à rattraper le retard sur les slides, j'essaierai de mettre les enregistrements, au moins les enregistrements. Pour les slides, je vais essayer d'avancer un peu, mais je vais avoir du mal, je pense, à rattraper tout le retard. Eh bien, bonne soirée et à demain.
Bonne soirée, monsieur.
Merci.
Merci beaucoup. Bonne soirée.
Merci. Bonne soirée.